Nous allons parler de la prière. C'est vrai que ce n'est pas simple de parler de la prière. C'est un sujet vaste. Mais nous allons dire certaines choses sur la prière pour nous aider à persévérer, nous aider à retrouver le Seigneur, pour nous aider à marcher avec lui. Et nous lisons dans Actes des Apôtres au chapitre 10. Actes des Apôtres. Chapitre 10. Parce que la prière, bon, quand on dit prière, tous les chrétiens savent qu'il faut prier et ce n'est pas simple d'en parler, puisqu'on le sait déjà. Mais parfois on néglige, mais on a besoin qu'on nous rappelle les choses que nous connaissons déjà. Il est écrit ceci. Or, à Césarée, un homme nommé Corneille, centurion de la cohorte appelée Italique, pieux et craignant Dieu, avec toute sa maison, faisant beaucoup d'aumônes au peuple et priant Dieu continuellement, vit clairement en vision, environ vers la 9e heure du jour, c'est-à-dire vers 15 heures. Un ange de Dieu entrant auprès de lui et lui disant, Corneille, et fixant les yeux sur lui et étant tout effrayé, il dit, Qu'est-ce, Seigneur? Et il lui dit, Tes prières et tes aumônes sont montées pour mémorial devant Dieu. Voilà, j'ai préféré lire cette version-là, Darby. Tes prières et tes aumônes sont montées comme mémorial devant Dieu. Dans la version normale, on dit c'est monté comme un souvenir. Le mot mémorial est beaucoup plus solide. Ça montre que Dieu conserve, parce qu'un mémorial, c'est une sorte de recueil de souvenirs importants. Ça peut être aussi un monument pour nous rappeler des choses importantes qui se sont passées. Et l'ange dit à Corneille, tes prières sont montées comme un mémorial, c'est comme un recueil. Donc tes prières sont conservées et aujourd'hui, elles vont fonctionner. Aujourd'hui, elles sont présentées à Dieu comme un recueil de bons moments, parce qu'un mémorial prend les faits importants. Et les prières de Corneille étaient conservées comme des faits importants et la prière est bonne. Donc Dieu avait conservé toutes les prières de Corneille comme un mémorial, comme un monument. C'est extraordinaire de voir que la prière, c'était même pas un juif Corneille à l'époque. Il connaissait pas encore Jésus à l'époque, mais il avait l'amour pour le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Et la Bible dit que dans cet amour-là, il avait reconnu dans les Juifs ceux qui prient le véritable Dieu qui a fait les cieux et la terre. Et il s'était attaché à ce peuple-là et il faisait des aumônes et il priait le Dieu que les Juifs priaient, sans le connaître. Mais rien que cet attachement-là à Dieu à travers la prière a fait que les prières de Corneille sont devenues un mémorial pour Dieu, un livre de souvenirs. Lorsque tu lis, tu vois les faits importants. Les prières de Corneille étaient des faits importants. À combien plus forte raison, toi qui crois en Jésus, toi qui as donné ta vie au Seigneur, tes prières sont comment? Bien-aimé, premier enseignement, les prières de Corneille, des faits mémoriaux. Nous continuons. Au verset 7. Et quand l'ange qui lui parlait s'en fut allé, Corneille, ayant appelé deux de ses domestiques et un soldat pieux d'entre ceux qui se tenaient toujours auprès de lui, et leur ayant tout raconté, les envoya à Joppé. Or, le lendemain, comme ils marchaient et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit pour prier, vers la 6e heure, c'est-à-dire à midi. Et il eut très faim. Et voulut manger. Et comme on lui a prêté à manger, il lui survint une extase. Et il voit le ciel ouvert et un vase descendant comme une grande toile, lié par les quatre coins et dévalé en terre, dans laquelle il y avait tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui fut adressée, disant, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Non, point, Seigneur, car jamais je n'ai rien mangé qui soit impur ou immonde. » Et une voix lui fut adressée encore pour la seconde fois, disant, « Ce que Dieu a purifié, toi ne le tiens pas pour impur. » Et cela eut lieu par trois fois, et le vase fut aussitôt élevé au ciel. Et comme Pierre était en perplexité en lui-même à l'égard de ce qu'était cette vision qu'il avait vue, voici aussi les hommes envoyés de la part de Corneille, s'étant enquis de la maison de Simon, se tenaient à la porte, et Simon, surnommé Pierre, logeait là. Et comme Pierre méditait sur la vision, l'Esprit lui dit, « Voilà trois hommes te cherchent, mais lève-toi et descends et va avec eux sans hésiter, parce que c'est moi qui les ai envoyés. » Et Pierre, étant descendu vers les hommes, dit, « Voici, moi, je suis celui que vous cherchez. Quelle est la cause pour laquelle vous êtes venus ?» Et ils dirent, « Corneille, centurion, homme juste et craignant Dieu, et qui a un bon témoignage de toute la maison des Juifs, a été averti divinement par un Saint-Ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre des paroles de ta part. » Les ayant donc fait entrer, il les logea. Et le lendemain, se levant, il s'en alla avec eux. Et quelques-uns des frères de Joppé allèrent avec lui. Et le lendemain, ils entrèrent à Césarée. Et Corneille les attendait, ayant assemblé ses parents et ses intimes amis. Et comme il arrivait que Pierre entrait, Corneille allant au devant de lui se jeta à ses pieds et lui rendit hommage. Mais Pierre le releva, disant, « Lève-toi, et moi aussi je suis un homme. » Et conversant avec lui, il entra et trouva plusieurs personnes assemblées. Et il leur dit, « Vous savez, vous, que c'est une chose illicite pour un juif que de se lier avec un étranger ou d'aller à lui. Et Dieu m'a montré à moi à n'appeler aucun homme impur ou immonde. C'est pourquoi aussi, lorsque vous m'avez envoyé chercher, je suis venu sans faire de difficultés. Je vous demande donc pour quel sujet vous m'avez fait venir. » Et Corneille dit, « Il y a 4 jours que j'étais en jeûne jusqu'à cette heure-ci, et à la 9e heure, je priais dans ma maison. Et voici un homme se tient devant moi dans un vêtement éclatant et dit, « Corneille, ta prière est exaucée et tes aumônes ont été rappelées en mémoire devant Dieu. Envoie donc à Joppé et fais venir Simon, qui est surnommé Pierre. Il loge dans la maison de Simon, corroyeur au bord de la mer, et lorsqu'il sera venu, il te parlera. J'ai donc aussitôt envoyé vers toi, et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous présents devant Dieu pour entendre tout ce qui t'a été ordonné de Dieu. » Et Pierre, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je comprends que Dieu ne fait pas exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Vous connaissez la parole qu'il a envoyée au fils d'Israël, annonçant la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ. Lui est Seigneur de tous. Ce qui a été annoncé par toute la Judée, en commençant par la Galilée, après le baptême que Jean a prêché, Jésus qui était de Nazareth, comment Dieu l'a oint de l'Esprit Saint et de puissance, lui qui a passé de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tout ce que le diable avait asservi à sa puissance. Car Dieu était avec lui. Et nous, nous sommes témoins de toutes les choses qu'il a faites au pays des Juifs et à Jérusalem, lequel aussi ils ont fait mourir le pendant au bois. Celui-ci, Dieu l'a ressuscité le 3e jour et l'a donné pour être manifesté, non à tout le peuple, mais à des témoins qui avaient été auparavant choisis de Dieu, savoir à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il eût été ressuscité d'entre les morts. Et il nous a commandé de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui est établi de Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes lui rendent témoignage que, par son nom, quiconque croit en lui reçoit la rémission des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, l'Esprit Saint tomba sur tous ceux qui entendaient la parole, et les fidèles de la circoncision, tous ceux qui étaient venus avec Pierre s'étonnèrent de ce que le don du Saint-Esprit était répandu aussi sur les nations, car ils les entendaient parler en langue et magnifier Dieu. Alors Pierre répondit, « Quelqu'un pourrait-il refuser l'eau, afin que ceux-ci ne soient pas baptisés, eux qui ont reçu l'Esprit Saint comme nous-mêmes ?» Et il commanda qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Amen. Voilà, que le Seigneur soit béni. Il nous est dit que Corneille priait et même jeûnait. Et le quatrième jour, il reçoit cette vision-là. Mais pourtant, Corneille, c'était quelqu'un qui était riche. C'était un chef centenier. Il était riche. Donc, on ne nous dit pas qu'il priait pour avoir de l'argent. Il priait pour le problème matériel. Non, il cherchait quelque chose. Il cherchait une véritable communion avec Dieu. Il voulait être dans la dépendance de Dieu. Il priait. Il faisait comme c'est écrit dans Psaume 27. Il cherchait la face de Dieu. Et là, la Bible dit que l'ange lui a dit, tes prières sont montées comme un mémorial. Dieu a vu que tu tenais à lui. Et maintenant, il se révèle à toi. Je vais permettre que tu écoutes les vraies paroles. Et en même temps, la Bible nous dit, quelques jours après, Pierre était en train de prier. Mais il y a un détail qui est important. C'est à midi que Pierre monte pour prier. Et nous savons, nous sommes dans le pays de la gastronomie, nous savons ce qui se passe à midi. Donc il y a des gens qui ne supportent même pas que midi 10 les attrape alors qu'ils ne sont pas autour de la table. Donc ils se mettent en colère. Mais la Bible nous dit qu'à midi, Pierre, lui, il est monté pour prier. C'est un détail très important. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais tiens, l'heure que nous avons consacrée à manger, Pierre a consacré cette heure à prier. La Bible dit que par la suite, il a eu faim. Ce n'est pas qu'un homme qui prie ne va pas avoir faim. Il a eu faim, il a mangé après. Mais c'est curieux qu'à midi, lui s'intéresse à prier. Alors qu'il y en a qui sont tellement organisés pour manger à midi pile. Alors Dieu nous dit quoi? L'organisation que nous mettons pour manger à midi pile, pourquoi aussi ne pas nous organiser aussi pour prier? Avoir des moments de prière. Midi pile, nappe. On met les petites assiettes des entrées, c'est des petits trous de grosses, enfin. C'est là. Les couverts sont là. Le monsieur attend d'attaquer, bien-aimé. Mais là, Pierre, à midi, il a faim d'autre chose. Le Seigneur nous montre qu'il avait faim, lui aussi, mais faim de Dieu. À midi, il va chercher la face du Seigneur. Après avoir prié, maintenant, c'était l'instant de manger. Mais comme il avait donné la priorité à la prière, Dieu a dit, d'accord, tu as faim, mais j'ai encore des choses à te montrer. Voilà la vision. Bien-aimé, il y en a qui cherchent les visions, mais qui ne voit rien du tout. Ou bien peut-être la télé, c'est fini. Mais Pierre n'a même pas cherché de vision. Il cherchait qui? Il cherchait Dieu. Si tu cherches Dieu, tu le verras, bien-aimé. De plusieurs manières, mais tu verras. Il cherchait Dieu de tout son cœur. À midi, bien-aimé. La Bible dit, il est monté pour prier à midi. Ce n'était pas quelqu'un qui manquait de nourriture. Dans certains pays africains, on profite du manque de nourriture pour prier. Non, bien-aimé, il avait la possibilité de manger. Mais lui, à midi, il s'est dit, je vais aller prier. J'ai faim, mais j'ai faim de Dieu. Bien-aimé, un vrai chrétien doit penser à prier. Je n'aurai pas beaucoup de commentaires à faire. Les textes vont parler tout seuls. À midi, il pense à prier. Il faut avoir des moments de prière. Comme on a des moments pour manger, nous devons avoir des moments de prière. Comme la vraie nourriture. Dieu veut parler. Dieu veut travailler avec nous. Dieu veut marcher avec nous. La prière, c'est très important. Aujourd'hui, nous vivons un temps où les gens passent tous les instants à raisonner, à polémiquer, à trop parler, mais il prie moins. Nous devons revenir au temps où on va beaucoup plus prier et parler moins. Pour dire que ce qu'on a reçu dans la prière, pour dire des bonnes choses qui font avancer, il faut passer du temps à prier. Prier, ça fait intervenir Dieu dans nos affaires. Prier, c'est la preuve que Dieu est Dieu. Vous savez, pour bien comprendre la Bible, il faut bien comprendre la Genèse. Si on comprend bien la Genèse, on va comprendre le reste. Vous savez, qu'est-ce qu'il y a dans la Genèse? Adam, on lui a proposé d'être comme Dieu. On lui a dit, c'est bien, tu as des pouvoirs que Dieu t'a donnés. Tu as des autorisations que Dieu t'a données pour gérer le monde, mais tu dépends quand même de lui. Il te faut lui parler pour obtenir d'autres choses. Il te faut en quelque sorte prier. Moi, Satan, je vais te montrer un moyen pour que tu ne dépendes pas de Dieu. Si tu manges ce fruit-là, tu n'auras plus besoin de prier. Tu seras rempli d'intelligence, tu te suffiras à toi-même. C'est ça le début du péché. Le fait de refuser de dépendre de Dieu. Le fait de gérer soi-même sa propre vie. C'est ça le début du mal dans l'humanité. Et la prière est l'un des moyens que Dieu nous a donné pour régler ce problème-là. Parce que nous avons tous ce péché-là en nous. Une force qui veut nous dire, qui veut nous pousser à nous éloigner de Dieu. Nous tous, bien-aimés, moi le premier, on a en nous quelque chose qui veut rivaliser avec Dieu. On ne supporte pas de rester petit vis-à-vis de Dieu indéfiniment. On veut quelque part se débrouiller tout seul. Et Dieu veut qu'on prie, et en priant, c'est la preuve que c'est Dieu qui peut résoudre nos problèmes. C'est la preuve que Dieu est tout. C'est la preuve que Dieu est la solution. C'est la preuve que c'est lui qui est tout puissant. Il veut qu'on prie. Ça va nous aider à ne pas tomber dans le péché. Quand quelqu'un commence à prier moins, il finit par tomber dans le péché. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de problème, il y a un problème de quantité de prière. C'est parce que quand on ne prie pas, en réalité, on est déjà tombé dans la suffisance. On est déjà tombé dans le raisonnement. On est conduit par nos raisonnements. On ne fait plus confiance en ce qui est écrit parce qu'on ne prie pas. Petit à petit, quelqu'un qui ne prie pas, eh ben, il va tomber dans le péché. Ne nous étonnons pas. Il va tomber dans la colère, dans la médisance, dans l'incrédulité, parce qu'il est tombé dans le péché d'Adam, qui était d'être indépendant. La prière nous ramène à la dépendance à Dieu. C'est pourquoi, qu'on ait envie ou pas, nous devons penser à cette origine du péché, savoir l'indépendance à Dieu. Tu te dis, je vais prier Seigneur, parce que je me sens tellement bien, suffisant, ça ne me plaît pas, il y a un problème. Je veux te redire ma dépendance à toi. À travers l'adoration, à travers la prière. Je ne veux pas petit à petit mourir comme Adam est mort. Je veux rester vivant en dépendant de toi. À midi, il monte. C'est des gens qui avaient compris que la prière devait occuper la place centrale. On ne nous dit même pas la quantité de prières qu'il a faites. L'enseignement qui est là, c'est la place qu'occupait la prière dans la vie de Pierre. On ne parle pas parce qu'il y en a qui prient même longtemps, 5 heures, 8 heures. Mais quelle est la place qu'occupe la prière? C'est une place de religion. C'est une place de logique, de quantité, comme le font les bouddhistes et autres, ou bien des gens qui égrènent les chapelets. Donc, ils vont faire 120 fois. Je vous salue quelqu'un et puis c'est pas ça qui compte la quantité, c'est la place qu'occupe la prière. À midi, au moment où la France mange, Pierre lui il monte pour prier. Bien-aimé, je suis pas contre les poulets rôtis et autres, mais la prière avant. La prière avant. Sans la prière, on devient petit à petit bête. On devient orgueilleux. On veut résoudre les choses par la chair. La prière avant, bien-aimé. Mauvaise nouvelle, la prière avant. Revenons à la dépendance, bien-aimé. Revenons à la dépendance à Dieu. La prière, c'est dire à Dieu, tu es Dieu. Moi, l'homme, moi, homme, je suis limité. Bien-aimé, ce n'est pas facile la prière. Non pas à cause de la quantité, mais à cause de l'orgueil qui est dans l'homme. C'est ça qui rend la prière difficile. Parce qu'on se dit, mais oui, mais... Et surtout le raisonnement qui te dit, mais il connaît ce que je veux dire. Oui, mais ce n'est pas parce qu'il sait ce que tu vas dire que tu n'as pas à le dire. Tu dois le dire parce que tu dois affirmer ton infériorité. C'est important qu'on affirme notre infériorité vis-à-vis de lui. C'est ça, bien-aimé. La Bible nous montre que lorsque Jésus-Christ, dans Matthieu 21, est arrivé dans le temple, qu'est-ce qui s'est passé? Matthieu 21, versets 12 à 13. Jésus entra dans le temple. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, « Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. » Il a dit, « Ma maison, c'est une maison de prière. Mais vous, vous avez trouvé vos solutions à vous. » Dans un verset de l'Ancien Testament, Jésus dit, le Seigneur dit, « Mais au lieu de chercher la source d'eau que je suis, vous vous cherchez à creuser des citernes crevassées. » Les citernes, c'est la solution de l'homme. Je vais faire des citernes, je vais garder l'eau. Comme ça, au temps où je n'ai pas de l'eau, je vais utiliser l'eau que j'ai gardée. L'homme veut gérer. Dieu dit, vous refusez de prier pour que moi, la source, j'envoie des pluies? Parce que les pluies, c'est dépendre de moi. Vous préférez des citernes, faire vos citernes à vous, gérer. Vous refusez la dépendance à moi. Et là, les gens du temple avaient trouvé leur commerce pour s'enrichir, enrichir le temple. La prière ne les intéressait plus. C'était leur commerce, leur business, comme on dit aujourd'hui. Jésus dit non. Ma maison n'est pas un endroit de business. Ma maison est une maison de prière. C'est l'endroit où il faut venir en contact avec moi. Vous savez que la prière est tellement une des solutions pour régler le problème d'Adam, régler le problème du péché, que Dieu avait autorisé qu'au temple de Salomon, même les étrangers, même les païens, pouvaient venir au temple de Salomon, pas comme les juifs à l'intérieur, mais à l'extérieur, il pouvait venir prier. Il a dit, même un étranger qui vient dans cette maison, quand il va prier, je vais écouter. Donc, Dieu savait que quand l'homme va prier, c'est une reconnaissance de sa divinité à lui. Parce que le vrai problème entre l'homme et Dieu, c'est la reconnaissance de Dieu comme son Dieu. C'est le vrai problème. Et quelqu'un qui prie déjà, a déjà accepté que Dieu était Dieu. Parce qu'il prie pourquoi? Donc c'est déjà un élément de retour à Dieu, la prière. Et Dieu, dans le temple de Salomon, avait autorisé ça, que même les étrangers pouvaient venir prier. Et il dit que l'étranger qui va venir prier dans ce lieu, je vais l'écouter aussi. Je vais l'écouter. Parce que prier, c'est un acte déjà de retour à Dieu. Même si après, il y a d'autres choses à faire, mais déjà prier, c'est un acte de retour à Dieu. Revenir à Dieu. Nous devons prier parce que c'est un acte de retour, de dépendance à Dieu. On manifeste notre infériorité par rapport au Seigneur. Jésus dit, c'est ma maison est une maison de prière, pas une maison de voleurs. Ma maison est une maison d'adoration. Reconnaître que Dieu est tout-puissant. Et nous avons besoin de la parole de Dieu pour prier, bien sûr. Parce que la parole de Dieu décrit les qualités de Dieu, décrit les potentialités de Dieu, décrit les possibilités d'action de Dieu, décrit les projets de Dieu. Nous avons besoin de prier parce que dans la prière, nous fusionnons avec Dieu, nous comprenons ses projets à travers la parole, nous comprenons ses capacités et nous savons à partir de cela, encore de mieux en mieux prier. Quand tu fusionnes avec le Seigneur, tu comprends qu'il est tout-puissant. Et donc, le problème qui embêtait ta famille, tu peux lui adresser cela. Nous avons besoin, premièrement, de reconnaître que Dieu est Dieu. Et c'est ce qu'on appelle l'adoration. Nous revenons dans la prière pour dire, tu es Dieu. Tu es bon parce que ton fils est mort pour nous à la croix. Tu es tout puissant parce que tu as fait les cieux et la terre. Tu es juste parce que tu ne supportes pas le mal. Tu es pur parce que tu n'as en toi, il n'y a pas de mal. Donc nous commençons à décrire la nature de Dieu. En décrivant la nature de Dieu, nous allons peut-être nous souvenir, tiens, puisque Dieu est juste, j'ai une affaire avec quelqu'un, dans sa justice, dans sa toute-puissance, Dieu va intervenir pour que la justice s'accomplisse. Donc je n'ai pas besoin moi de parler, je n'ai pas besoin moi de me fâcher, je n'ai qu'à compter sur sa justice. Tout ça, tu entres dans cet état-là, dans la prière, un état de paix où tu as compris la nature de Dieu. Et quand tu as compris la nature de Dieu, tu peux associer ça aux événements de la terre et tu en ressors avec la paix, l'assurance, la victoire. Et cela va s'accomplir, bien-aimé. Nous avons besoin de prier, d'adorer Dieu, de confesser nos péchés. Confesser les péchés, c'est reconnaître que c'est nous qui nous sommes trompés. Je parle de la vraie confession. On reconnaît son erreur et on retrouve la paix. Il y a beaucoup de gens qui confessent, mais qui ne retrouvent pas la paix. Pourquoi? Parce qu'après avoir confessé pour eux, ils sont toujours mécontents. Parce qu'ils disent, mais Dieu aussi, lui, il m'avait promis qu'il m'empêchera de pécher. Pourquoi Dieu ne m'a pas aidé? Parce que nous tenons quand même aussi à... L'homme tient un peu à son honneur. Le fait qu'il pêche, c'est comme une défaite aussi. Même s'il a confessé, il est un peu en colère. Il se dit, mais oui, mais pourquoi Dieu m'a laissé pécher, quoi? Et c'est pourquoi beaucoup, après avoir confessé, n'ont toujours pas la paix. Parce qu'ils sont en train de se poser des questions sur Dieu. Pourquoi il m'a laissé pécher? Pourquoi il m'a laissé pécher? Voilà, maintenant, je suis humilié. Voilà où je suis descendu. Bien-aimé, il faut faire une confession totale. Une bonne confession, le tort ne va revenir qu'à toi seul. Dès que tu commences à partager tes torts avec d'autres, ce n'est pas une bonne confession. Dès que tu commences à accuser les autres, ce n'est pas une bonne confession. Une vraie confession, tu vas te limiter à toi seul. Comme David a dit dans Psaume 51, j'ai péché contre toi seul. C'est moi, David, qui ai péché. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ce n'est pas toi, c'est moi, David. C'est ça la vraie confession. C'est toi qui as péché. Et ça, ça fait quoi? Ça fait du bien à Dieu. Parce que quand tu confesses, tu reconnais que Dieu est juste. Toi, tu es pécheur. Tu reconnais que Dieu est juste. Ça, c'est l'adoration. Et lorsqu'on tourne en rond, on ne veut pas parler clairement, bien-aimé. On veut donner des torts aux autres. On est bloqué. Même si on fait une confession officielle, mais le cœur n'est pas libéré. Parce qu'on donne tort à Dieu. On donne tort aux autres. Il faut une confession totale. C'est moi qui ai péché, Seigneur. Comme on chante, it's me. C'est moi, Seigneur, qui suis devant toi pour prier, quoi. Ce n'est pas ma sœur, ce n'est pas mon père, c'est moi, Seigneur, qui ai péché. Et quand on fait cette vraie confession, qui reconnaît que Dieu ne s'est pas trompé, on a vraiment la vraie paix. Mais quand on cherche un petit tort à Dieu pour dire, mais oui, mais pourtant j'avais prié avant, pourtant je venais d'une veillée, pourtant je venais du culte, mais comment je suis tombé quand même? Comment? Alors quelque part, on conteste l'aide de Dieu, donc il n'a pas été au rendez-vous. Bien-aimé, on ne sera jamais en paix. Quand on est là à dire, mais pourtant, le frère, il prêche, pourtant la sœur, elle est responsable. Mais comment elle a pu se comporter? Alors c'est pourquoi moi aussi j'ai... La confession n'est pas totale. La confession sera totale quand on dira, j'ai péché. C'est ça la vraie prière de confession. Ça donne l'honneur à Dieu. Bien-aimé, dans toutes choses, donnons l'honneur au Seigneur. Parce qu'il est digne, il ne fait pas d'erreur. En lui, il n'y a point de fraude. Il est tout puissant et bon. Ça, c'est la première, un des rôles essentiels de la prière. La reconnaissance que Dieu est Dieu à travers l'adoration. Un autre rôle de la prière, c'est faire entrer Dieu dans nos affaires. On a beaucoup de choses à régler dans ce monde. On a beaucoup de choses à faire. Je crois que beaucoup ont déjà lu des livres, autrefois quand on était jeunes, des livres de Superman, des livres de fées qui, avec des baguettes magiques, sortent du pain, bien qui ouvrent des portes, même des livres de gens qui traversent les murs, qui volent, qui résolvent les problèmes en un instant. Mais bien-aimés, nous avons plus que tout cela. C'est l'Éternel Dieu qui a pu faire sortir un arbre en un jour avec Jonas. C'est lui qui a fait ressusciter Lazare qui était mort, cela faisait 4 jours. C'est lui qui a multiplié les pains. Tout ce qu'on a lu là, les fées, les magiciens, tout ce qu'on a lu autrefois, les Superman, tout ce qu'ils peuvent faire, mais Dieu peut le faire plus rapidement. Et là, c'était des bandes dessinées, mais là, c'est la réalité. Avec Dieu, c'est la réalité. Avec Dieu, c'est la réalité. Il peut résoudre des choses instantanément. Instantanément. Alors que tu ne vois pas d'issue, mais lui, il sait comment passer. Donc, prier, c'est le faire entrer dans nos affaires. Une affaire te dépasse. Fais entrer Dieu. Tu verras la toute-puissance de Dieu se manifester. Une affaire complexe. Fais entrer Dieu. Mais nous vivons un temps, il y a tellement de procédures de solutions. Tellement de procédures médicales, procédures légales. Problème au travail, on va voir le syndicat. C'est réglé malgré tout. Problème. Ce n'est pas résolu, le prud'homme. Ce n'est pas résolu, tu es licencié. Le maître a ses dits qui est là. Après, les assédics s'épuisent, le grand maître RSA, c'était RMI, le grand maître RSA est là. Il y a tellement de procédures, on passe notre temps à éplucher les procédures. Bon. Allô, l'administration, c'est 39-39. Bon, pour telle chose, je fais comment? On te donne les procédures. C'est des procédures. Et on ne pense plus à prier. Aujourd'hui, il y a même des gens qui ont trouvé des procédures bibliques. Comment faire que je divorce sans, pour avoir la possibilité de me remarier? Bon, il faut que j'embête la femme jusqu'à ce qu'elle en ait marre. Elle me quitte. C'est elle qui m'a quitté. Donc, ce n'est pas ma faute. Donc, bien aimé. Il y a des procédures. Je vais embêter l'homme. Il va en avoir marre. Donc le pasteur verra clairement que ce n'est pas moi. Mais alors qu'il l'embête en secret pour que l'autre quitte. On connaît même des techniques pour contourner Dieu. Dieu dit zéro. Celui qui bâtit sans l'Éternel bâtit en vain. Tu regretteras un jour. Comme a dit un frère, on sait ce qu'on laisse, on ne sait pas ce qu'on gagne. Tu connais la personne dont tu te sépares. Tu le connais. Mais celui qui viendra, celle qui vient, tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Tu penses connaître parce qu'il t'a fait manger dans un restaurant. Mais tu ne connais pas la réalité, bien-aimé. Tu vas oublier vite les sushis, là. Tu ne connais pas la réalité. On sait ce qu'on perd et on accuse ce qu'on a. C'est fatigant. Il y a ça. Mais bien-aimé, après, tu vas te gratter la tête, quoi. Mettons tout dans la prière, bien-aimé. Moi, j'entends des gens accuser tout le temps la France. Il y a ça. Moi, je dis, mais faites un tour ailleurs, bien-aimé. Vous qui embêtez tout le temps la France, c'est zéro, c'est difficile, c'est... Faites un tour ailleurs. Vous allez revenir ici très vite, je vous dis. Très, très vite. On n'est jamais content. Et au lieu de prier, on cherche des procédures pour contourner. Raisonnement. Et Dieu dit, il faut prier. Il faut prier, résoudre les problèmes, bibliquement par la prière. Dieu est capable. Nous pouvons le faire entrer dans nos affaires. Et quand il entre dans nos affaires, il est tout puissant pour agir. Il est vraiment tout puissant. Et vraiment, quand tu pries, tu vois l'action de Dieu, tu as même peur. Tu te dis, mais il est si rapide. Les gens disent que Dieu est lent. C'est faux. Il n'est pas lent. Il fait les choses au bon moment. Il est très rapide quand la nécessité le veut. Il est très, très rapide. Très, très rapide. Nous devons prier, bien-aimés. Parce que nos affaires nécessitent que Dieu intervienne. Même les plus petites affaires, éducation des enfants, ça nécessite que Dieu intervienne. Il est plus efficace que nous tous réunis. Au travail, ça nécessite que Dieu intervienne. Des discussions, des disputes dans le quartier, ça nécessite que Dieu intervienne. Un voisin colérique, Dieu doit intervenir, bien-aimé. Dieu peut intervenir et calmer la situation. Il est tout-puissant. Dieu peut aller même jusqu'à changer de président. Au Nigeria, il y a un temps, un général avait pris le pouvoir, Sani Abacha. Mais tout le monde a tremblé. C'était comme si Satan était descendu sur terre. Parce qu'avant qu'il soit président, on avait déjà peur de lui. C'est lui qui contrôlait tous les présidents qui passaient. Maintenant, lui-même, il passe président. Les chrétiens ont prié, bien-aimés, comme jamais auparavant. Je crois que ça n'a pas dépassé 3 ans. Abacha est mort de crise cardiaque. Dieu est tout puissant, bien-aimé. La prière est efficace. La prière est efficace. Au lieu de chercher à contourner par des raisonnements, par des procédures, prions, bien-aimé. Intercédons, bien-aimé. Donnons la place à Dieu. Disons que Dieu, c'est toi seul qui peux résoudre nos problèmes. Et il va le faire. Il a montré. Il y a des moments où tu ne vas parfois même pas prier comme ça audiblement, mais tu penses seulement quelque chose. Tu es triste seulement pour quelque chose et Dieu résout le problème. Parce que tu es quelqu'un qui lui donne de l'importance. Les gens, vous savez le texte qu'on vient de lire? Nous, autrefois, on a lu ça et relu. Vous savez pour quelle raison? Voir la puissance tomber sur les gens qui parlent en langue. Personne ne s'est intéressé pour voir que là, il y avait une attitude de Corneille extraordinaire. Il priait Dieu sans intérêt. Moi, je connais quand on était nouvellement chrétien. C'est un texte qu'on a relu, donc, pour voir l'exploit de Pierre. Rien qu'en train de prêcher, la puissance descend sur les gens, il commence à parler en langue. Mais on ne s'est même pas intéressé à voir que Corneille, c'est un homme qui aimait le Seigneur sans intérêt. On ne s'est même pas intéressé à voir que Corneille n'était même pas juif, mais il priait le Dieu des Juifs comme s'il était juif. Il faisait des aumônes et des prières continuellement, dit la Bible. Et quand on voit quelqu'un vivre un miracle, on se dit, mais oui, mais pourquoi Dieu fait avec lui? Mais toi, tu connais sa vie? Tu ne connais pas sa vie. Corneille regardait son comportement. Continuellement en prière. Continuellement en train de faire des offrandes pour Dieu. Continuellement. Regardez Pierre. À midi, il monte pour prier. Mais après, quand il va voir une telle vision, ah, mais oui, mais c'est comme si Dieu a choisi des gens. Non! C'est des gens qui aiment le Seigneur. C'est des gens qui prient. C'est des gens qui mettent Dieu dans leurs affaires. Et Dieu agit. Même parfois, ils ne vont pas demander comme Corneille. Il n'a pas demandé de parler en langue. Mais c'est lui a été donné parce qu'il avait une grande soif de Dieu. Nous voulons obtenir des choses alors qu'on n'a pas prié. Il y en a qui sont dans la procédure juridique biblique. Dieu a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Parce que nous ne voyons pas les paralytiques marcher. D'accord, mais je ne te vois pas non plus prier à midi comme Pierre. Pierre, il passait quelque part, son ombre guérissait les malades. Mais nous ne vivons pas ça. Mais oui, nous ne vivons pas non plus qu'à midi, on prie. Mais nous ne vivons pas. Oui, mais nous ne vivons pas non plus comme Corneille, un païen qui cherche Dieu 4 jours et jeûne. On ne vit pas non plus ça. Il n'y a pas la crainte de Dieu. Et vous voulez voir les miracles. Bien-aimés, ce n'est pas le baby-foot. Hein. C'est des choses sérieuses. Dieu ne va pas faire des exploits avec n'importe qui pour amuser la galerie sous prétexte qu'il y a des versets qui disent ceci ou cela. Il va faire des choses avec des gens qui le prennent au sérieux. Des gens qui prient sérieusement. Seigneur, nous voulons voir ta venue. Nous voulons voir ton action dans l'humanité. Les gens qui le prennent au sérieux. Aujourd'hui, les miracles sont devenus un jeu. Ce n'est pas un jeu. Nous devons nous réveiller sur la prière, bien-aimé. La prière, c'est tout un état, une nature. Pierre qui prie à midi. C'était devenu une nature. C'est pourquoi Paul dit « prier sans cesse ». C'est devenu une nature où on reconnaît Dieu dans nos affaires. On le fait intervenir dans nos affaires. Et ce faisant, nous recevons la paix. Nous entrons dans la vraie intimité, bien-aimé. Jésus a dit « ma maison ». Dieu a dit « sa maison, c'est une maison de prière ». Et aujourd'hui, le temple, c'est toi et moi. Ce temple-là est une maison de prière. Combien de temps nous passons dans les polémiques? Là, j'entre dans les obstacles. Qu'est-ce qui nous empêche vraiment de prier? Parce que nous passons nos temps dans les polémiques, dans les discussions entre nous, polémiques avec la Bible, polémiques avec Dieu. Mais qui peut polémiquer avec Dieu? Tu vas polémiquer comme les Voltaire, tu vas te fatiguer, tu vas mourir un jour, on va t'enterrer et les gens continuent à croire en Dieu. Pendant que toi, on t'amène au cimetière, il y a des gens qui chantent ailleurs, Hosanna, Hosanna. Toi, tu es déjà dans le tombeau, mais il y a des gens qui chantent Dieu. Tu vas te fatiguer pour rien. Tu polémiques avec quelqu'un qui est éternel. Tu peux toujours polémiquer, tu ne voleras jamais comme un oiseau. Mais lui, il crée des oiseaux. Nous passons notre temps à polémiquer, à faire des raisonnements, à discuter. C'est ça l'orgueil de l'homme, la suffisance. Et ça nous empêche d'accorder du temps dans la prière. Parce que la prière, ça rabaisse l'homme. Ça fait de lui un incapable et ça rend Dieu seul capable. Nous passons notre temps à vouloir convaincre l'autre. Tu as déjà parlé. La Bible dit l'esprit convainc. Prie que l'esprit convainc. C'est tout. Nous voulons insister. Mais non, j'ai raison. Non, non. Ne polémiquons pas trop. Soyons des gens qui prient. Dieu lui-même a la capacité de justifier, de convaincre. Qu'est-ce qui bloque, bien-aimé? C'est la suffisance. Quand on commence à voir les moyens, ben, Dieu devient petit. Surtout dans nos pays occidentaux. Comme je vous ai dit, on a beaucoup de moyens. De sorte que l'homme n'a pas vraiment besoin de Dieu. Vous savez, autrefois, par exemple, en Israël, il y a deux saisons, six mois. Et la saison qu'on appelle saison de pluie, c'est 6 mois, mais il ne pleut que 10 jours environ. Donc, on appelle ça saison de pluie que de non. Donc, il ne pleut que 10 jours environ. Et les 10 jours-là vont suffire pour aider toute l'année. Alors, imaginez qu'il ne pleuve que 2 jours. Vous imaginez l'année va être comment? Alors, c'est des gens qui étaient obligés de dépendre de la source d'en haut, de Dieu. Mais nous, nous vivons un temps où le robinet, c'est notre source. Qui va prier pour qu'il y ait de l'eau? À part quelques agriculteurs, donc. Mais un très faible pourcentage. Qui va prier un jour? Qui a déjà prié? Cherchez, bien-aimés, entre nous ici. Qui a déjà prié? Seigneur, nous voulons de l'eau cette année. Cherchez! Il n'y en a pas. Il sait qu'il va s'ouvrir le robinet. Il n'a pas. La lionnesse des eaux, c'est son Dieu, bien-aimé. Mais quelqu'un qui vit dans un pays où il faut prier, c'est parce que si tu ne pries pas pour l'eau, il y avait un jour spécial où on priait pour l'eau, après la fête des tabernacles. Vous savez le verset où Jésus dit, dans Jean 7, 37, 39, « Quiconque a soif, vienne. » Ben, c'est ce jour-là où les Juifs priaient pour que l'eau vienne. Lui dit, mais venez chez moi, la véritable source. Bien-aimé. Alors, nous vivons dans un pays où il y a la suffisance. Dans des pays où on n'a plus besoin de prier pour manger. On n'a plus besoin de prier pour s'habiller. Il y a même les endroits où on donne des vêtements gratuits, donc, où on va déposer des vêtements pour qu'eux, ils retapent ça et ils distribuent ça gratuitement. Ils commencent à trier. Si tu amènes quelque chose de très vieux, ils ne prennent même plus. Tellement il y a des vêtements. Donc, ils commencent à trier. Toi, tu vas te dire, je vais amener à Emmaüs n'importe quoi. Tu vas rentrer avec ton n'importe quoi, tu vas mettre à la poubelle. Maintenant, aujourd'hui, il faut amener des choses quand même de qualité parce qu'il y a tellement de dons de vêtements. Alors, comment les gens vont vraiment communier avec Dieu? Comment vont-ils prier? Ils n'ont pas de besoin. Parfois, quelques problèmes de l'âme. Et même là encore, il y a les antidépresseurs, les anxiolytiques. Il y a toutes sortes de contournements. Cette suffisance empêche les gens de prier. Et beaucoup de chrétiens, au début, c'était des gens qui priaient beaucoup. Mais dès qu'ils ont eu un CDI, dès qu'ils ont eu la femme qui cherchait, le mari qui cherchait, ils ont atteint leurs objectifs, 2 ou 3 enfants. Ça y est, Dieu est devenu une religion. Il n'y a plus la soif de prier réellement. Et on est étonné qu'il y ait des malheurs dans les églises. C'est parce que nous ne prions plus. Nous ne prions plus. Les réunions de prière, vous allez voir peu de gens. Mais les réunions où on enseigne des choses compliquées, il suffit qu'on dise conférence sur la fertilité. Et bien aimé, vous allez voir combien de gens vont venir. Ou bien conférence, réussir dans les entreprises. Vous allez voir, même les gens qui n'ont pas de projet vont venir. Mais qu'on dise prière pour que la grâce de Dieu se manifeste dans nos vies. Bien aimé, il y a des gens qui vont envoyer des sujets sur papier. Bien aimé, vous pouvez prier pour nous. On voit seulement les mercredis. Bon, nous allons prier pour telle sœur. Mais où est la sœur elle-même en train de manger? Où est la sœur elle-même en train de regarder le frère Scott? Well, bien aimé. Ah non, c'est le frère Scott. Well. Donc, elle est en train de regarder le frère Scott. Nous, on est en train de prier ici, bien aimé. Comment Dieu peut agir? On néglige la prière. Quand c'est la prière, pasteur, priez pour nous. Oh, et toi-même. Bien-aimé, Dieu a dit, ma maison, c'est la maison de prière. Maison de prière. Faire entrer Dieu dans nos affaires. Venir implorer le Seigneur, soit nous, en nous-mêmes, soit dans cette maison physique, bien-aimé. La suffisance, c'est quelque chose de dangereux. C'est pourquoi Paul a dit, je me plais dans les faiblesses. Parce que lorsque je suis faible, c'est là que je suis fort. Lorsqu'il y a des insuffisances, lorsqu'il y a des incapacités, c'est là que je peux m'en référer à Dieu et c'est là que je deviens réellement fort. La suffisance est très dangereuse. Et surtout, bien aimé, quand on est habitué à voir la chose facilement. Là, c'est le troisième point. Dès qu'il y a des difficultés, beaucoup sont démoralisés. Les difficultés empêchent beaucoup de vraiment prier. Ils sont dans les reproches vis-à-vis du Seigneur. Pourquoi le Seigneur a pris mon enfant? Pourquoi le Seigneur a pris ma mère? Pourquoi le Seigneur? Ils sont dans des pourquoi liés à des épreuves et ils n'ont pas résolu ces pourquoi-là. Et ça a détruit leur foi. Ils n'arrivent plus à prier. Bien-aimés, que les difficultés ne nous enlèvent pas le goût de prier. Dieu reste tout puissant. Il y a des choses qu'on comprendra au ciel, mais il y a des choses que Dieu nous expliquera sur terre. Mais il y a un minimum d'abord de confiance à avoir avec pour lui, dans la prière, et il nous expliquera. Et s'il ne nous explique pas, il nous donnera la paix, et on n'aura même pas besoin de la chose qui nous embêtait. Bien-aimés, nous ne devons pas laisser les difficultés nous sortir de la prière. Nous devons persévérer. Nous nous souvenons de l'histoire de la femme, de la veuve. Dans Luc 18, Jésus-Christ nous raconte l'histoire d'une veuve qui allait demander justice auprès d'un juge mauvais. Mais la Bible dit que ce juge qui était mauvais a fini par faire justice à cette veuve. Et Jésus dit, mais moi qui suis bon, n'agirai-je pas rapidement auprès de mes enfants qui crient à moi jour et nuit? Jour et nuit, nous devons prier. La prière est une vie. Paul dit, je me réjouis maintenant de mes faiblesses parce que ça me permet de prier. Au lieu que les difficultés nous étouffent, elles doivent nous motiver à prier. elles doivent nous pousser à dire, tiens, j'avais oublié Dieu. Je le remets dans les circuits. Bien-aimés, réveillons-nous. Il y a beaucoup à dire, mais je ne veux pas trop parler. Remettons la prière au centre. Remettons Dieu dans nos affaires. Donnons gloire à Dieu à travers la prière. Prions, bien-aimés. Le diable veut étouffer la prière. Il faut qu'on se réveille. Seuls, nous ne pouvons rien. Jean 15 le dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais comment faire entrer Dieu dans nos affaires à travers la prière? Le problème qui t'empêche de prier va être résolu comment? Par la prière encore. Il y a un problème qui m'empêche de prier. Seigneur, il y a un problème qui m'empêche de prier. Tu pries encore pour résoudre le même problème. La prière, c'est faire entrer Dieu. Et quand Dieu entre dans le circuit, rien ne peut résister, bien-aimé. Certains diront, mais on a prié, on n'a pas eu telle chose. Oui, la prière sert à nous entraîner dans l'intimité, marcher chaque jour avec Dieu. Même si on n'a pas eu la chose, au moins ça nous a permis de faire entrer Dieu dans nos vies, de le laisser maître de nos vies, et il va nous amener des gloires supérieures. Et un jour, on aura la chose qu'on avait demandée. Quand Pierre priait, il ne cherchait pas à aller prêcher les païens. Il priait parce qu'il fallait honorer Dieu. Et Dieu lui amène dans une gloire supérieure. La prédication peut être donnée aux païens. Corneille, quand il priait, est-ce qu'il cherchait à parler en langue? Il cherchait à entendre Pierre? Non. Mais Dieu l'amène dans une gloire supérieure. Voilà. Tu peux entendre l'évangile de la bouche de Pierre, mon apôtre. Bien-aimé, prier va créer l'intimité. Nous allons marcher avec lui. Nous allons devenir une maison de prière. Vous savez, la Bible dit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. C'est pareil pour la prière. Donc, quand on prie, Dieu est là. Il descend, il travaille. Donc, après, il peut faire beaucoup de choses qu'on n'avait même pas prévues. Mais la prière le maintient en nous. Si on n'a pas de choses à dire, adorons le Seigneur. Élevons-le, mais je suis sûr qu'on a beaucoup de choses à faire dans la prière. Matthieu 6 nous aide à prier si nous avons des problèmes de mots. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. On décortique cette prière, que ton nom, tu es mis à part, Seigneur. Tu es le véritable Dieu, que ton nom soit sanctifié. Tu ne te trompes jamais, tu es grand. C'est ça, que ton nom soit sanctifié, ça veut dire mis à part. Tu es unique en ton genre. Que ta volonté, que ton règne vienne. Viens régner dans ma vie, viens prendre le contrôle. Je me sens pas bien, Seigneur. Je crie à toi. Je cherche ta face. Qu'est-ce qui ne va pas? Viens prendre le contrôle. Que ta volonté se fasse. Oh, Seigneur, nous sommes dépassés par des choses, mais nous voulons que ta volonté se fasse. Occupe-toi de nous donner la parole pour aujourd'hui. La nourriture aussi pour aujourd'hui. Pardonne nos péchés, Seigneur. Voilà. Il y a la prière que Jésus nous a laissée pour nous aider si nous manquons de mots. On peut décortiquer cette prière et l'adapter à nous. Nous clôturons avec Philippiens 4, 6 à 7. Il est écrit, ceci, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Amen. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. On n'a pas dit ne vous inquiétez que de 10% des choses. Non. De rien. De rien. En toute chose, qu'est-ce qu'il faut faire? Faire monter à Dieu des prières. Il y a plusieurs sortes de prières, des actions de grâce, des remerciements. Seigneur, ce problème me dérange, mais j'ai en moi la foi que tu l'as résolu. Je te remercie, je te loue. Tu commences à louer Dieu. Il y a les demandes. Tu demandes carrément, Seigneur, je veux 1000 euros. Je veux des chaussettes rayées. Tu demandes ce que tu veux. Ce n'est pas interdit. Ça fait longtemps que je mangeais un gâteau au chocolat. J'en veux, Seigneur. Sois libre, c'est ton papa. Pourquoi tu philosophes? Bien-aimé, il ne faut pas jouer. aux philosophes. Il faut être libre comme des enfants. Un problème te dérange, il y a des moments où il faut supplier Dieu. C'est ça qui nous rabaisse. Parfois, on n'a même pas le goût de prier. Supplions, Seigneur, j'ai perdu le goût. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Faisons aussi des prières et des supplications. Ça peut nous amener à pleurer, mais faisons-les. Ça fait partie des moyens d'humiliation et de travail pour nous empêcher de tomber dans le péché d'Adam qui était de rivaliser avec Dieu. Souvenons-nous de cela. Nous devons être libérés de ça. Prier, c'est être comme des enfants, conduits par Dieu, conduits par le Père. Amen. Souvenons-nous de Pierre, à midi, il a prié. Souvenons-nous de Jésus, le tôt le matin, il a prié. Il donnait une place centrale à la prière. Souvenons-nous du péché d'Adam, l'indépendance. Or, la prière, c'est la dépendance. Souvenons-nous de Philippiens 4, 6 à 7. Les problèmes, je fais entrer Dieu dans ces problèmes. Et même si je ne vois pas la solution tout de suite, au moins j'ai le résultat. Le résultat, c'est quoi? C'est la paix. Et cette paix me dit que c'est réglé, tout est accompli. Et tu es fort. Et c'est ainsi que tu peux appliquer 1 Thessaloniciens 5, 16. Soyez toujours joyeux. Tu pourras vivre ce verset-là parce que tu sais prier. Si tu sais prier, en utilisant la parole de Dieu, tu pourras accomplir ce verset-là dans ta vie. Soyez toujours joyeux. Parce que Dieu te surprendra, bien-aimé. On te dira au téléphone, accident, il est dans un grave état. Et toi, quand tu viens sur place, tu vois seulement quelques égratignures sur ton frère, ton cousin, ta mère, parce que tu avais prié pendant ce temps-là jusqu'à venir. Tu ne t'es pas laissé influencer par ce que tu as entendu au téléphone. Tu te recommandais au Seigneur. Dieu te surprendra, bien-aimé. On était dans un circuit touristique en Israël et j'avais dit dans mon cœur, Seigneur, moi je veux voir En Gedi. Mais ce n'était pas prévu dans le circuit. Mais on est passé là, je regardais à droite, je dis, mais Seigneur, moi j'aurais bien voulu voir ça. Et on arrive dans un autre site touristique. Après la visite, j'entends la responsable discuter avec le responsable guide. La responsable dit, mais j'aimerais bien qu'on passe aussi à En Gedi. Le guide dit, non, c'est pas possible. Déjà, on est bloqué, et puis, moi, on n'a plus d'argent pour ça. La responsable dit, je vais payer moi-même. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. Je n'ai même pas prié. J'ai dit, Seigneur, j'aimerais bien voir En Gedi, bien-aimé. Et on est passé, on a bien vu En Gedi. J'ai vu les damas. Vous savez, quelqu'un me dira, mais pourquoi il cherche à voir En Gedi? Cantique de Cantique 1, verset 14. Mon bien-aimé est comme une grappe de troène de vin d'En Gedi. J'ai toujours lu ce verset-là. Ça m'a toujours donné le vertige. Pourquoi, je ne sais pas. Alors, arrivé sur place, qu'est-ce que je voulais voir? En Gedi. Les grappes de troène. Amen. Dieu exauce les plus petits désirs. Fais de l'Éternel de tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. J'ai beaucoup de choses à raconter, mais il ne faut pas que ça s'intéresse à un homme. Il faut qu'on s'intéresse à la Bible. La parole de Dieu nous montre que la prière fait entrer Dieu dans les événements. Alors pourquoi pas lui qui est tout puissant, qui va les résoudre? Prions le Seigneur. Éternel, nous voulons restaurer la prière dans nos vies, Seigneur, personnelles et dans la vie de ton Église, Seigneur. Nous prions que tu nous aides à prier, que tu nous aides à sortir de la rébellion, de la suffisance, où certains pensent qu'ils sont devenus de grands pasteurs, où certains pensent qu'ils sont des grands prédicateurs, ou des grands chrétiens. Seigneur, nous ne sommes que des petits enfants, Seigneur. Le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme des enfants. Et nous voulons retourner à la prière comme des petits enfants, Seigneur. Ô Éternel, restaure l'esprit de prière au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ, nous t'en prions, Seigneur. Restaure l'esprit de prière au milieu de nous, dans le nom de Jésus. Que nous ne puissions pas nous inquiéter. Les inquiétudes nous étouffent. Alors qu'il suffit de prier, les problèmes sont réglés, Seigneur. Alléluia. Merci de prendre notre âme, Seigneur. Toi, la source de vie. Nous voulons que ta flamme brûle encore dans nos cœurs. La flamme qui a animé Pierre, qui l'a poussé à midi à monter prier, Seigneur. Nous voulons cette flamme qui va nous amener à considérer que tu es la solution. Alléluia. Merci, Seigneur.